With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui certes ne boude pas son plaisir lorsque les choses vont vite, que ça castagne un peu, qu'on est saisi par un rythme soutenu dans l'image ou la narration, mais qui pour autant ne tourne pas le dos à des propositions plus en retenue, plus flottantes, plus aériennes et peut tout à fait s'émouvoir face à la tranquillité de façade des hautes herbes battant doucement à la mesure d'une brise légère. En la matière, le maître incontesté c'est évidemment Terrence Malick, qu'on a perdu de vue ces derniers temps à force de projets peu convaincants, mais qu'on garde sous l'œil car on sait l'étendue de ses capacités et qui nous revient en ce début décembre 2019 avec une vie cachée dont on va causer avec deux êtres aussi énigmatiques que contemplatifs. David Honora, salut David.
Ben salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 212 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît.
Une vie cachée, Hidden Life en VO, nous raconte l'histoire vraie de l'Autrichien Franz Jägerstätter, incarné ici par le comédien allemand August Thiel, qu'on a déjà aperçu chez Zemeckis ou chez Tarantino. Jägerstätter est connu surtout pour avoir, alors que la Seconde Guerre mondiale battait son plein, refusé de porter les armes et de prêter allégeance à Adolf Hitler, une décision qui lui vaudra d'être incarcéré.
What's happened to our country?
We're killing innocent people,
raiding other countries, preying on the weak.
If our leaders, if they're evil, what does one do?
You have a duty to the fatherland. The church tells you so.
You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor.
Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Terrence Malick, réalisateur de Badlands, du Nouveau Monde, de la Ligne Rouge, Palme d'Or à Cannes en 2011 pour The Tree of Life. Et au casting, outre August Diehl que j'ai cité, on trouve Valérie Pachner, Michael Nyquist ou encore Matthias Schoenaerts ou Bruno Ganz. Votre avis sur Une vie cachée, les amis? On va donner la parole à David Honora et sa voix suave de Belle Hidalgo.
J'ai ça.
Lyon.
C'est
de
ma
Lyon.
Voix de novembre.
C'est ça.
C'est mon Movember vocal.
Car on enregistre en novembre pour une émission qui est diffusée en décembre, tout à fait.
C'est vrai.
Donc David.
Alors moi je parle un petit peu de mémoire sur le film parce que je l'avais.
Toi tu l'as vu à Cannes.
J'avais parlé à
Cannes.
On avait un peu parlé avec Arnaud Bordas notamment qui avait également beaucoup aimé le film. Alors comme tu l'as dit en intro, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont suivi Malick jusque dans ses derniers égarements, mais c'était pas trop mon cas, justement, c'est pour ça que je dis égarements.
La merveille, Net of Cups, tout ça,
alors,
c'est pas ton truc.
Mine de rien, en fait, À la merveille, pour moi, ça fonctionnait encore plutôt pas mal. Moi, je suis pas forcément hyper client de Malick tout le temps,
ouais.
dans ses premiers films. Enfin, moi, je mets vraiment Les Moissons du Ciel au-dessus du reste, en fait. En fait, dans Tree of Life, pour moi, c'est un film qui me partage moi-même. C'est-à-dire que je vois à la fois des choses qui sont complètement éblouissantes dedans, qui me passionnent, et puis des grands moments du film qui me perdent totalement, qui me sortent du film parce que ça ne m'intéresse plus. En fait, ce qui m'a gêné et quelques autres spectateurs sur les deux, trois précédents films de Malick, c'est que c'est justement cette partie de Tree of Life qu'il a le plus travaillé. Quoi. En particulier, Night of Cup, il y a aussi son documentaire
Song to Song, qui va
encore plus loin, trop loin dans une démarche un peu absconse. C'est vrai, c'est vraiment.
Tu crois, oui.
Pas mal.
Ok. On vote, on a voté.
Cette lettre,
ça.
Non,
au moins ça. Ouais.
Ah bah, on apprend du vocabulaire, non.
Ah, c'est une émission. Où on se cultive.
Et non, donc alors, on revient à une forme et surtout à un récit beaucoup plus tenu, beaucoup plus classique. Et qui convient vraiment bien au sujet, qui, tu l'as très bien résumé, est finalement assez simple. C'est un C'est l'histoire
c'est un objecteur de conscience.
D'un homme voilà, qui décide de désobéir, comme on a pu voir d'ailleurs quelques autres occurrences avec des cinéastes très différents. Je pense à la fois au dernier film de Mel Gibson, Tu ne tueras point, avec du coup, le personnage qui refuse par conviction religieuse de prendre les armes. Et puis, dans un autre domaine, la résistance des personnages dans Silence de Scorsese. Et en fait, je trouve qu'il y a un parallèle entre ces deux films, entre le film de Malick et celui de Scorsese, qui est que les films éprouvent un peu, de manière vraiment beaucoup plus soft, mais éprouvent la résistance et la patience du spectateur avec des films très étirés en longueur, qui sont assez répétitifs et qui en même temps te donnent le temps de méditer sur les enjeux moraux qui se jouent là. Et à la fois, je comprends qu'on puisse ne pas marcher là-dedans et trouver... ne pas supporter justement ce côté moraliste du film, qui je pense pour moi est vraiment présent. Mais au contraire, moi en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est-à-dire que ce qui, de manière caricaturale, est reproché à Malick dans ce côté un petit peu... prêcheur de bonne conscience, le côté bondieuserie, pour moi c'est justement c'est ce qui est intéressant de voir, ce qui est hyper original en fait dans le cinéma américain aujourd'hui dans cette forme et dans cette approche, et qu'il est le seul à faire avec cette grâce là. Et voilà, le film tient sur les deux interprètes principaux qui sont, je trouve, vraiment incroyables, et sur la fluidité du style de Malick qui emporte le truc et qui arrive à trouver en fait de la beauté dans des choses qui sont vraiment désespérantes en fait. On peut toujours se raccrocher à la beauté, et il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien autour de ça. Voilà, j'ai deux choses à dire, mais
très bien.
Mais je sens Stéphane dans les starting blocks.
Non, toi tu l'as vu beaucoup plus récemment, Stéphane.
Je l'ai vu là il y a deux jours. C'est un narrateur, Malick, quoi qu'on en pense en fait, parce que justement c'est un peu ce qui lui reprochait. J'ai envie de dire de son vivant, parce qu'à mon avis, quand il sera mort, justement, en fait, ça sera exactement ce qui lui sera célébré. C'est ce qui se passe en général avec les très grands cinéastes, quoi. C'est un narrateur dans le sens où, même si sa méthodologie, en fait, c'est d'avoir une ligne directrice dans ce qu'il veut raconter, à peu près, hein, et en fait, partir ensuite sur un montage, une création avec notamment des voix off, en fait, qui s'interpénètrent et qui donne les sentiments des personnages principaux, en fait, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a raconté et qui sait, en fait, à la fois, effectivement, par le jugement de morale dont parle David, il a une ligne de conduite comme ça, qui est la ligne de conduite de son personnage, en l'occurrence, dans ce film-là. C'est-à-dire que c'est un personnage qui ne déroge pas du tout une seule seconde à sa ligne de conduite, qui, en fait, a décidé au fond de lui-même que le fait de servir sa patrie à ce moment-là, dans ce cadre spécifique de l'histoire, au moment, en fait, où il était perdu, la notion du bien et du mal, qui était extrêmement floue en fait à l'époque où on la vivait. Aujourd'hui c'est très facile d'avoir du recul sur la situation, mais à l'époque où tu la vis c'est beaucoup plus compliqué. Se dire que ce type là en fait va tenir coûte que coûte, ne jamais transiger, moi je suis extrêmement attaché à ce genre de personnage là. C'est quelque chose dans lequel je peux complètement me projeter. Et en fait, quand je dis c'est un narrateur, Malick, c'est que dès les trois premières images du film, quasiment, en fait, il explicite en fait la problématique générale. C'est-à-dire, c'est à la fois dans l'ellipse et dans le cadre, on voit le personnage principal en train de faucher en fait les blés dans son village. Cut, sa femme est en train de polir sa faux, elle aussi. Cut, et on la revoit tous les deux dans le même mouvement, en fait, en train de faire leur fauchage en fait, et de sur leur blé, quoi. Et là, en fait, on a tout de suite compris qu'ils vont être ensemble du début jusqu'à la fin, littéralement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivent ensemble et elle va le soutenir dans sa décision, quoi. Qui est quand même très dure à porter, quoi.
Mais pas immédiatement. C'est-à-dire que c'est aussi toute l'avancée du film. C'est-à-dire que il y a finalement lui reste complètement droit dans sa position et vraiment l'ensemble des personnages tout autour, tout le monde veut lui faire changer d'avis. Elle
se prononce pas, en fait.
Ouais, voilà.
Elle le questionne lui, elle le questionne pas auprès des autres, elle le questionne lui. Ouais. Et ce qui est très intéressant, en fait, aussi dans ce film-là, c'est que assez régulièrement, le personnage est confronté à toutes les strates de société. Mmh. Alors, c'est une petite société, en l'occurrence, c'est vraiment, c'est un petit village perdu en Autriche. Donc voilà, donc il est confronté au maire, qui est clairement, il est confronté à l'église, qui lui dit non, moralement, je ne peux pas te soutenir, tu dois, en fait, servir ta patrie. Tu as un devoir, il questionne le libre arbitre auprès d'eux, mais voilà, etc. etc. Et en fait, il est confronté à toutes ces strates, en fait, l'autorité directement, c'est-à-dire que la police, que ce soit la police ou que ce soit l'État. Donc il est complètement, pris, et à chaque fois, il ne déroge pas. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, et ça, c'est plus général chez Malick, on va dire, en tout cas, pas uniquement sur ce film-là, mais c'est vraiment quelque chose qui, quand je dis c'est un narrateur, c'est très très puissant. Malick, il a un style visuel. Qui est très spécifique, en fait, qui fait notamment de courtes focales qui inscrivent les personnages, en fait, dans leur environnement social. Là, en l'occurrence, on sait très bien que Malick, c'est la nature. Donc, le film est absolument merveilleux, en fait, dans ce sens-là, en fait, dans ce cadre-là. Parce que, en fait, tu ressens en fait l'environnement du personnage et tu comprends, en fait, tu arrives à te mettre à sa place, en fait, justement, et de là où il vient. Parce que toute la problématique, en fait, de savoir si tu vas maintenir ta ligne de conduite dans une société de manière générale, c'est de savoir d'où tu viens, comment tu as été éduqué et qu'est-ce que tu vas en faire. Et je pense que c'est, voilà, en fait, le filmage, j'ai pas envie de décorréler les choses, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est extrêmement important, en fait, de le filmer comme ça, ce film-là, en tout cas que Malick se l'approprie vraiment parce qu'il sait faire. C'est une manière, en fait, de te faire rentrer à la fois dans les attermoiements du personnage, mais dans une immersion générale, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, quand je regarde un film comme ça, mais ça vaut pour, par exemple, La Ligne Rouge, ça vaut pour ces films-là, Les Moissons du Ciel, etc., etc., beaucoup plus à partir de La Ligne Rouge, surtout, en fait, dans ces constructions-là, parce que c'est là où il a commencé à faire des films épiques, on va dire, à proprement parler, longs,
par exemple.
C'est l'idée, en fait, d'être totalement immergé dans cet univers. Et en fait, je pense que c'est pour ça que ces films sont longs. Moi, je crois que t'as dit, en fait, que voilà, c'était exigeant au sens où, en fait, en gros, on peut s'emmerder, en fait, à ce film-là, en fait, on peut rester dehors. Mais moi, je préconise, en fait, qu'on regarde ces films-là en salle. Je vois pas l'intérêt de voir ça en vidéo chez soi. S'il se fait récupérer par Netflix pour faire un film la prochaine fois, ça va être chiant, en fait. Parce que, en gros, tu peux pas, en fait, te pointer et avoir ton téléphone qui sonne, ton bidule, ton machin, et en fait, ne pas être totalement immergé dans cette logique-là.
Mais en fait, juste pour préciser ce point-là, c'est que, comme tu l'as dit, les enjeux pour le personnage sont limpides et tout est posé extrêmement rapidement. Et en fait, ce qui est un petit peu difficile, c'est que finalement, tout le film ne fait que raconter le fait que le personnage ne va pas bouger, enfin va rester droit dans ses bottes jusqu'au bout. Et en fait, le fait de ne pas dévier de sa position fait que, de manière un peu superficielle, on peut avoir l'impression qu'il se passe rien, puisque de toute façon il va. Et en fait, ce que je trouve fort, c'est que par l'immersion dont tu parlais, en fait, il nous met dans une sorte d'état méditatif presque de nous poser nous pendant ce temps-là. Énormément de questions, en fait, évidemment des questions de à quel type de situation similaire moi j'ai été confronté, à quel type de situation similaire on est confronté aujourd'hui de nos jours, parce que c'est pas parce que c'est un fait historique qu'il n'y a pas des résonances, évidemment, aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation et comment je peux faire en sorte d'avoir cette même dignité, cette même intransigeance, etc. et qui ne passe pas par les codes classiques narratifs d'un cinéma hollywoodien qui va faire des rebondissements avec des moments moment avec trois actes et un moment où il va être au fond du trou et il va revenir, etc. Non, là, c'est une ligne claire, une ligne directe.
Ceci étant dit, tu as des rebondissements émotionnels. C'est là, en fait, où je veux en venir avec ce type de filmage. C'est-à-dire qu'en fait, la logique immersive pour moi d'un film comme ça, c'est... j'ai pas envie de faire un comparatif, ça se compare pas en fait avec un blockbuster ou un truc comme ça, mais en fait le moindre animal filmé comme ça dans un film comme ça vaut les dinosaures de Jurassic Park. Et du coup en fait la première fois que tu les vois, la première fois que tu es émerveillé par ça, et du coup l'idée, ce que j'entends par là, c'est évidemment qu'il y a aucun comparatif entre les deux films, c'est vraiment, je fais un comparatif complètement hasardeux, mais c'est pour expliquer qu'on a plus l'habitude maintenant aujourd'hui de voir d'être émerveillé par des effets spéciaux, on va dire, de ce type-là, que par en fait la nature à proprement parler. Or ça, c'est un des crédos évidemment de Terrence Malick, il le dit, hein. C'est quand même le type qui quand t'as une forêt, une jungle, de vietnamienne qui est en train de cramer, il te fait deux minutes sur un crapaud qui est en train de crever, quoi, tu vois. Donc en fait c'est clairement un mec qui se positionne par rapport à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce point de vue là c'est un point de vue en fait qui favorise l'immersion et l'immersion émotionnelle. Donc en fait, en gros, pour moi, l'idée, c'est que finalement tu vis à tour par tour, en fait, la vie de ces deux personnages. C'est-à-dire, d'un côté, le père, quoi, c'est-à-dire le personnage principal qui va se retrouver en prison. Et là, d'un seul coup, le film devient extrêmement moche. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il doit faire du grand angle, c'est ce qu'il fait, il se continue à faire dans une cellule. Le film n'est pas beau, quoi. Et par essence, en fait, parce que lui, là, il braque ça sur la nature, quoi. Mais quand elle le fait, malgré toutes ses souffrances, malgré tout ça, etc., etc., tu vois ce que ça veut dire, en fait, la souffrance au quotidien qu'elle peut avoir à la fois dans sa situation, à la fois dans son travail, parce qu'elle est plus aidée, elle est même rejetée pendant une grande partie du film, elle est rejetée par les gens du village, il n'y a que sa sœur qui l'aide, il y a un peu son père, et du coup en fait ce que j'entends par là, c'est que d'un seul coup, cette façon de filmer, je parle des animaux, mais il n'y a pas que ça, une caresse, une simple caresse dans la nuque, ou un truc comme ça, si t'es complètement immergé dans le film, si tu t'es vraiment laissé aller, tu la ressens quelque part, en fait, façon de parler, mais voilà, tu t'es vraiment dans un truc, et du coup c'est ça que je trouve assez magnifique, parce que moi, la problématique, on va dire, entre guillemets, morale, et puis surtout, bon, dieuzarde éventuelle, en fait, parce qu'on sait que c'est un homme qui croit, en fait, Malick, ça me dérange pas, moi, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où je ressens, ne serait-ce que pendant les trois heures où je vis la situation, ce que lui, il est en train de vivre, ce que le personnage est en train de vivre, ce que voilà. Et donc, du coup, il y a je vais faire un comparatif encore plus hasardeux que les blockbusters, en fait. Mais pour moi, c'est comme jouer à un open world, en fait. Quand l'open world est vraiment bien fait, c'est-à-dire, en fait, il y a une logique d'immersion où le temps que tu accordes au jeu auquel tu joues, en fait, il t'est rendu en multiple parce que, tu as investi ce temps-là dans le jeu. Et le film te propose ça. C'est pour ça que j'ai du mal à dire... je peux pas dire, ah ouais, alors je me suis fait chier à une vie cachée, ou je me suis fait chier à la ligne rouge, ou je me suis fait chier à tout ça. Parce que, en fait, en gros... Le ressenti que j'ai en sortant du film, c'est ce qui me reste, en fait. Et c'est le souvenir et l'émotion, en fait, qui me reste. J'ai pas forcément pleuré pendant le film, j'ai pas forcément été mais en fait le film va me marquer, ces images vont me marquer parce que je les ai ressenties. Et c'est là où, en fait, où pour moi c'est un vrai narrateur, parce que c'est quelqu'un qui va prendre un sujet qui là, pour le coup, ça pourrait être un sujet M6 du dimanche après-midi, ça pourrait être un truc de thèse, pour les dossiers de l'écran le mardi soir à l'époque et tout, quoi. C'est vraiment genre, après on va faire un débat, qu'est-ce qui se passe alors, pour ou contre, tu vois, blablabla,
contre les nazis,
doit-on servir la patrie, doit-on vraiment être objecteur de confiance, avons-nous du libre arbitre, tu vois, voilà. Donc non, là, tout ça, le truc, c'est que t'as tout ressenti, et donc du coup tu ressors avec ça, et c'est ce qui te reste, c'est ce qui me reste de tous les films que j'ai vu de Terrence Malick, en tout cas que j'ai aimé, et qui, pour moi, il a réussi. Et donc, du coup, oui, alors dans sa construction, il y a cette idée que voilà, en fait, il va se servir, en fait, d'éléments cinématographiques, comme encore une fois, ce grand angle, cette voix off, ces longs plans, en fait, en gros, qui va laisser, en fait, infuser, quoi, voilà. Et c'est ça qui fonctionne. Pour moi, c'est ça qui est magnifique dans Une vie cachée. Après, j'ai une petite réserve sur l'emploi, parce qu'il tourne maintenant en numérique. Et en fait, du coup, je trouve qu'on perd un petit peu en qualité, par rapport à une certaine époque, en fait, qualité immersive. Il y a quelques plans où, en fait, l'étalonnage, il n'est pas extrêmement travaillé. Quelques trucs comme ça, c'est minime, c'est vraiment minime par rapport à ce que le film offre. Mais voilà. Et
bah, c'est aussi par rapport à ses derniers films, c'est beaucoup plus répétitif visuellement aussi, parce qu'en fait, il est sur un, c'est quasiment un huis clos, c'est-à-dire qu'il y a, on a d'un côté les moments où il va être après dans le camp et en cellule et dans le camp militaire, etc. Mais sinon, le village dans lequel ça se situe a beau être très ouvert au milieu des montagnes, etc. On est toujours sur le même petit lopin de terre et on voit que ça, quoi. On boucle pendant le film.
Mais de toute façon, c'est un petit film hein, par rapport à ce qu'il fait, mais c'est lui
qui a été tourné beaucoup plus vite.
Ouais, et c'est lui qui le rend grand, en fait. Ouais. C'est ça le truc, c'est sa façon de faire, en fait, qui le rend grand, quoi.
Comme toujours, on va terminer, chers amis, sur ces belles paroles, par un petit tour d'encore plus belles paroles, qui sont les recommandations, qui sont notre tradition à nous. Là aussi, tout en sensibilité, évidemment, toujours, surtout quand on parle de serpent géant. Stéphane, d'ailleurs, tiens.
Bah, alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas un serpent géant, d'ailleurs. Non. C'est un serpent, bah, en tout cas, dans Une vie cachée.
On peut partir du principe qu'un film sans serpent géant, ou sans gorille, ou singe, en manière générale, est un film qui... déjà un peu raté.
Voilà. Non. Moi, je vais conseiller le premier, Terrence Malick, on déplaise à mon ami David Honora à cette table, que j'aime beaucoup, Badlands, en fait.
Balade sauvage.
Voilà, la balade sauvage qui en fait déjà pose en germe certaines notions, en fait, comment dire, de ce que Malick a fait, mais je le recommande en fait pour deux raisons. Alors déjà, une première raison, c'est que voilà, c'est un joli film.
Tout à fait.
C'est pas effectivement, c'est à partir de L'émotion du ciel où on va dire entre guillemets que Malick est vraiment devenu Malick, mais il y a déjà en fait voilà, et c'est un film qui a influencé quelques cinéastes, notamment Tony Scott, aussi absurde que ça puisse paraître, en fait, sur True Romance. Faites-vous en fait les deux films back to back, en fait, à la suite, et vous allez voir en fait que déjà le thème principal musical, c'est vraiment en fait de True Romance de Hans Zimmer a vraiment été repris sur celui de Badlands, et il y a un esprit entre guillemets, même si c'est encore une fois stylistiquement complètement différent et c'est beaucoup plus, on va dire entre guillemets rock'n'roll, le Tony Scott. Il y a comment dire des notions, parce que je pense que le point important qu'avait Tony Scott en fait sur un film comme True Romance, c'était d'aller chercher dans l'histoire de deux jeunes adolescents, comment dire, poursuivis par la police pour un crime et tout, leur véritable amour. Et disons que en fait, pour un film qui se passe en 92-93 comme True Romance, en jouant énormément à ce moment-là sur la violence, sur tout ça, etc., etc., il fallait qu'il arrive à trouver ce cœur qui, à mon avis, était déjà dans le scénario de Tarantino, hein, mais comment dire, émotionnel, pour arriver à le retranscrire. Et je pense que c'est pour ça qu'il a utilisé cette référence-là, en fait, pour voilà, qui était un de ses films préférés aussi par ailleurs, quoi. Donc c'est pour dire que même avant que je me rappelle que moi, en fait, Terrence Malick, j'en ai vraiment entendu parler à la fin des années 90, quand il a après 20 ans de comment dire de d'absence cinématographique, il est revenu avec La Ligne Rouge. Des cinéastes en fait le citaient déjà presque 7-8 ans avant, quoi.
Parce qu'il y a ça qu'on n'a pas dit qui est étonnant, mais ça mériterait un épisode en soi sur la carrière et la manière de produire de Malick qui est assez étonnante, où il fait deux films dans les années 70 puis il ne fait plus rien pendant 20 ans. Enfin, il y a tout un... Là aussi,
et avec une aura, énorme à Hollywood, en fait.
À Hollywood, effectivement. David ?
Oui, alors moi, je réfléchissais à quelle pouvait être la... qui pouvaient être les héritiers en fait de Malick, et en fait c'est assez complexe, mais disons qu'il y a quand même un cinéma du vieux sud aux États-Unis avec un certain nombre de cinéastes de cette région-là du Texas, éventuellement de la Louisiane et de ces coins-là.
Et qui est la région où il vit Malick.
Où vit Terrence Malick, voilà. Et en fait c'est dont on trouve un écho dans son cinéma. C'est-à-dire que ces grands espaces, cette manière d'appréhender le monde. Enfin, en tout cas, il a apporté une vision cinématographique du monde qui est très différente d'une grande partie du cinéma américain, parce que une grande partie du cinéma américain, c'est des citadins et c'est des gens des grandes villes et des côtes. Et voilà, il y a un cinéma du vieux sud. Et en fait, parmi eux, j'en citerai un qui est un jeune cinéaste qui a fait un premier film. Le réalisateur s'appelle Ben Zetlin. Il a fait le film qui s'appelle Les Bêtes du Sud Sauvage il y a à peu près 6 ans, si je ne dis pas de conneries, ouais. Et dont on n'avait plus de nouvelles. Les Bêtes du Sud Sauvage, c'est l'histoire d'une, d'une petite fille orpheline dans une sorte de monde un peu fantastique.
C'est en 2012.
2012, donc plus, ouais, 7 ans. Et c'est, on est dans le bayou plus ou moins après la tempête c'est vraiment un film à hauteur d'enfant, hyper impressionnant, complètement gorgé de musique avec une narration assez liquide qui est vraiment le nouveau style narratif de Malick. Et on va enfin en fait avoir des nouvelles de Ben Zetlin parce que on vient de voir la bande annonce et il a un film qui va sortir qui s'appelle Wendy et qui est une nouvelle relecture de Peter Pan centrée sur le personnage de Wendy et qui en tout cas de ce que j'ai vu d'après la bande annonce a l'air vraiment magnifique. Donc voilà, je recommande pour en attendant la sortie de Wendy de voir Les Bêtes du Sauvage.
Effectivement, merci beaucoup à tous les deux. Notre temps est écoulé. Merci à Victor à la technique, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.